RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire à l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président Youssouf Kalla encourage la gestion des assurances et du financement contre les catastrophes. 3 personnes mortes à cause du tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 qui a secoué l'est de Java et Bali. Le FMI suggère le développement des ressources humaines pour le développement durable en Indonésie. Le vice-premier ministre malais demande à l'Indonésie de promouvoir une huile de palme durable. Et enfin, le festival de cinéma de Luang Prabang 2018 au Laos soulèvera le thème indonésien. Voici le journal complet. L'Indonésie est un pays sujet à diverses catastrophes qui peuvent causer la mort et aussi des pertes matérielles à cause des dommages des infrastructures routières et de construction. Le vice-président indonésien Youssouf Kalla a déclaré que l'Indonésie avait besoin d'une gestion des assurances et des financements pour faire face aux divers types de catastrophes qui se produisent souvent en Indonésie. Cela a été déclaré par Youssouf Kalla dans le forum de dialogue sur le financement des risques de catastrophes et des assurances ayant pour thème stratégie nationale pour l'amélioration fiscale avant l'ouverture de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale 2018 à Nusa Dua, Bali, mercredi. Youssouf Kalla a déclaré aux délégations étatiques participant aux activités du groupe de la Banque mondiale GBM et du Fonds monétaire international FMI que diverses catastrophes en Indonésie telles que le tsunami d'Aceh, le tremblement de terre de Lombok et le tsunami de Palu et Donggala avaient provoqué des pertes matérielles assez grandes. Le budget de reconstruction et de réhabilitation ne peut pas uniquement pris sur le budget de l'État. La reconstruction et la réhabilitation à Aceh après le tsunami ont été aidés le financement par le FMI et l'Organisation des Nations Unies. Par conséquent, le vice-président espère qu'à l'avenir, l'Indonésie aura besoin d'une gestion des assurances et des financements afin de ne pas dépendre de l'aide étrangère.
Selama ini aset-aset negara itu dibuat tanpa suatu perlindungan.
Jusqu'à présent, les actifs de l'État ont été faits sans protection risque fiscal dû à une catastrophe. Si le pont est endommagé, il est remplacé à nouveau après la catastrophe. Si le bâtiment gouvernemental est endommagé, tout devient le fardeau du budget de l'État. Nous ne voulons pas que tout soit financé par le budget de l'État. Nous ne voulons pas dépendre continuellement de l'aide étrangère. Comment les biens de l'État peuvent-ils être assurés? Jusqu'à présent, il n'y a pas de règles sur la manière dont les biens du gouvernement sont assurés. Le vice-président Youssouf Kalla a invité les pays participants au FMI et WBG 2008 à mettre en place une gestion de l'assurance et des financements face aux catastrophes afin d'alléger le fardeau des pays touchés par des catastrophes naturelles. Selon lui, les infrastructures routières et les bâtiments gouvernementaux et communautaires sont des actifs qui doivent être assurés contre les catastrophes naturelles. Un séisme d'une magnitude de 6,4 a secoué les régions de Java orientale et Bali jeudi à 1h57 heure l'Indonésie. L'Agence de météorologie, climatologie et géophysique a indiqué que l'épicentre du séisme était situé aux coordonnées de 7,47 de latitude sud et à 114,43 de longitude est, ou précisément dans la mer à 55 km au nord-est de la ville de Situbondo, dans la province de Java Oriental, dans la profondeur de 12 km. Le tremblement de terre n'avait pas le potentiel de tsunami. Le poste de commandement de BNPB, l'Agence nationale de gestion des catastrophes, a confirmé l'impact du séisme à l'Agence régionale de la gestion des catastrophes de la province de Java-Est. Le chef des informations et des relations publiques du BNPB, Sutopo Purwonugroho, a rapporté à Jakarta jeudi que, sur la base des données provisoires sur l'impact du séisme, 3 personnes sont mortes et des maisons ont été endommagées. La région la plus défavorisée se trouve dans le district de Gayam, la résidence de Sumenep à Java Oriental. Le poste de commandement de BNPB continue de surveiller l'évolution de l'impact du séisme et son traitement. Le directeur des affaires fiscales du Fonds monétaire international FMI, Victor Gaspar, a encouragé l'Indonésie à accroître ses investissements dans le développement des ressources humaines. C'est ce qu'a déclaré Victor Gaspar lors de la présentation d'un rapport de supervision fiscale mercredi à Nusa Dua, Bali. Il a déclaré que l'Indonésie avait connu des progrès importants au cours des 50 dernières années en termes de développement durable et inclusif. Cela est prouvé par l'augmentation du produit intérieur brut et d'autres indicateurs sociaux. Pour poursuivre cette croissance positive, le gouvernement indonésien qui se concentre actuellement sur le développement des infrastructures a besoin d'une stratégie de développement axée sur le développement des ressources humaines. En outre, Victor Gaspar a déclaré, afin de soutenir les investissements dans les infrastructures, les ressources humaines, l'éducation et la santé, le gouvernement indonésien avait besoin d'une source de financement durable. Selon lui, cet objectif sera obtenu si le gouvernement indonésien est en mesure d'augmenter les revenus d'État auprès du secteur des impôts. Selon lui, le secteur qui contribue encore peu à la croissance économique en Indonésie. Le président indonésien Joko Widodo et le vice-premier ministre malaise Wan Aziza Wan Ismail, lors d'une réunion bilatérale au palais présidentiel de Bogor mardi, ont discuté d'un effort visant à promouvoir le commerce durable de l'huile de palme. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui accompagnait le président, a déclaré que le gouvernement malais avait demandé à l'Indonésie de coopérer pour promouvoir l'industrie durable de l'huile de palme auprès du monde par l'intermédiaire du Conseil des pays producteurs d'huile de palme, CPOPC. Ceci est fait pour contrer les problèmes négatifs liés à l'huile de palme qui affectent les deux États en tant que plus grands producteurs d'huile de palme au monde.
Disampaikan oleh Deputy Prime Minister adalah mengenai masalah sawit.
La vice-première ministre a parlé de l'huile de palme. Cela signifie que les deux pays doivent coopérer pour promouvoir l'huile de palme durable. Le président a dit oui et cette bonne coopération se reflète dans le CPOPC. Le CPOPC est une organisation de producteurs d'huile de palme dont les membres sont l'Indonésie et la Malaisie. Et par le biais du CPOPC, nous collaborons toujours. En outre, Retno a déclaré que le premier ministre malais Mahathir Mohamad avait récemment révélé la même chose lors de sa visite à Bogor il y a quelque temps. Mahathir demande au gouvernement indonésien de lutter contre la campagne négative contre l'huile de palme gérée par l'Union européenne. L'Union européenne accuse que les plantations de palmiers à huile ont causé des dommages environnementaux et peuvent entraver les exportations de produits en provenance d'Indonésie et de Malaisie. Selon Mahathir, cette accusation n'a aucun fondement ni aucune preuve de base. En plus de la question des produits de base de l'huile de palme, Madame Retno a déclaré lors de cette réunion, la vice-première ministre Wan Aziza a également déclaré l'élimination du terrorisme par les centres de renseignement. Le vice-premier ministre a également promis d'accroître la sécurité sur son territoire maritime par un grand navire de patrouille sophistiqué. C'est fait pour surmonter le cas où des citoyens indonésiens travaillant dans un bateau malais qui ont été enlevés à Sabah en Malaisie le mois dernier. L'Indonésie est devenue un partenaire dans l'organisation du Festival du film de Luang Prabang du 7 au 12 décembre à Luang Prabang au Laos. L'ambassadeur d'Indonésie au Laos, Pratito Suharyo, a déclaré à la Voix d'Indonésie mardi que le thème du 9e Festival du film était l'Indonésie. Ce festival peut offrir des opportunités à l'industrie du film indonésien de travailler au Laos. Ce festival international est également une occasion de présenter l'Indonésie aux habitants du Laos et du monde. Le nombre de touristes du Laos en Indonésie est encore très faible et vice versa.
Kali ini Indonesia yang diminta untuk menjadi salah satu atau satu-satunya tema. Jadi kegiatan ini.
Cette fois, l'Indonésie est demandée à être le seul thème. Donc, le thème de toutes ces activités est l'Indonésie. Tous les articles de produits cinématographiques, tout ce qui sera souligné dans cette activité. L'ambassadeur Pratito expliquait que le festival du film de Luang Prabang soulevait le thème des différents pays. Le festival du film de Luang Prabang a lieu au site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Luang Prabang. Le festival présente diverses activités telles que des projections de films, des programmes de courts-métrages et des débats publics par des cinéastes et des experts indonésiens. L'année dernière, le festival a présenté 32 longs métrages. Environ 22 000 personnes ont visité le festival du film de Luang Prabang. Cerita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le succès des Jeux para-asiatiques. L'enthousiasme et le succès des Jeux asiatiques 2018 à Jakarta et à Palembang deviennent l'inspiration du contingent indonésien aux Jeux para-asiatiques 2018. Le succès remporté par de nombreuses médailles et de fières réalisations peut être réalisé. L'esprit des athlètes handicapés n'est pas très différent de celui des autres athlètes normaux. Ils veulent aussi montrer leurs meilleures réalisations. Lorsqu'ils recevaient le contingent d'athlètes des Jeux para-asiatiques 2018 au Palais d'État au début d'octobre 2018, le président Joko Widodo espérait que le succès remporté par l'Indonésie aux Jeux asiatiques 2018 pourrait s'étendre aux Jeux para-asiatiques. Il s'avère que ce qui est attendu peut être réalisé. En regardant le match d'haltérophilie, le président Joko Widodo a exprimé son optimisme. L'objectif de 16 médailles d'or est de passer et à la réalisation du top 8 demandé et réalisé. Pour cette raison, il a déclaré que dans la poursuite de meilleures réalisations, il est nécessaire de prendre en compte l'apparition d'athlètes indonésiens à l'étranger. Pendant ce temps, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, a déclaré que même si l'objectif a été atteint, il n'est toujours pas satisfait. Il espère que les réalisations des athlètes handicapés indonésiens aux Jeux para-asiatiques 2008 pourront être appréciés de la communauté et que personne ne sous-estime les personnes handicapées. Le chef de mission du contingent indonésien aux Jeux para-asiatiques, Armin Shah, espère que le contingent indonésien continuera d'obtenir une nouvelle médaille d'or, étant donné que de nombreux athlètes indonésiens se qualifient pour la ronde des médailles. Il a également ajouté que le succès des athlètes indonésiens dépend non seulement de la grandeur de l'athlète et de l'habileté de l'entraîneur, mais également de l'existence d'une équipe de psychologie qui maintient sa mentalité et son enthousiasme pour rivaliser avec d'autres athlètes handicapés aux Jeux para-asiatiques 2018. Réfléchir au succès d'une compétition à l'autre nécessite un esprit fort et mental en match. En outre, la présence de thérapeutes et de psychologues auprès des athlètes est importante. Cela a été prouvé par la déclaration du chef de mission du contingent indonésien qui a déclaré que la participation d'un psychologue aux athlètes était directement proportionnelle aux résultats obtenus. En outre, un thérapeute appartenant à un contingent est également important pour que les athlètes se sentent à l'aise avec leurs conditions physiques pour faire face au match. Peu importe que joue un rôle important, le succès des Jeux asiatiques 2018 et des Jeux para-asiatiques 2018 est devenu une note distante pour le peuple indonésien qui souhaite la bienvenue à la génération en or de l'Indonésie en 2045. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 11 octobre 1968, la NASA a lancé Apollo 7, la première mission spatiale habitée des États-Unis. Apollo 7 est la première mission habitée du programme Apollo, la seule lancée par la fusée spatiale Saturn IB. C'est également la première mission américaine à envoyer une équipe de 3 hommes dans l'espace et la première mission à diffuser des images pour la télévision. Cette mission a été lancée de Cap Canaveral le 11 octobre 1968 et a atterri le 22 octobre 1968. Apollo 7 orbite dans l'espace pendant 10 jours, 20 heures, 9 minutes et 3 secondes avec 163 fois de l'orbite. Le 11 octobre 1984, l'accident d'avion du vol 3352 Aeroflot. C'est un vol local de Krasnodar vers Novosibirsk, Russie. Lorsque l'atterrissage à l'aéroport Omsk le jeudi 11 octobre 1984, l'avion a heurté un véhicule de maintenance sur la piste. L'accident a tué 174 personnes au bord et 4 agents des aéroports. Jusqu'en 2015, cet incident est encore le plus meurtrier accident de l'aviation en Russie. Le 11 octobre 2012, la Journée internationale de la fille, célébrée pour la première fois, déclarée par les Nations Unies. La commémoration vise à donner plus de possibilités pour les filles et améliorer la sensibilisation à l'inégalité entre les sexes qui est confrontée par les femmes dans le monde entier. Cette disparité inclut le droit à l'éducation, l'accès à l'éducation, la nutrition, les droits légaux, les soins médicaux et la protection contre la discrimination, la violence contre les femmes et les mariages d'enfants. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée « Le sauvetage des récifs coralliens » a également été abordé à la réunion du FMI et la Banque mondiale. Lors d'une série de réunions annuelles des responsables du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, avec des ministres du cabinet de travail, ont planté des récifs coralliens dans la région de Nusa Dua à Bali dimanche.
La directrice générale du FMI, Madame Christine Lagarde, a assisté à cette activité. Le ministre des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Monsieur Luhut Binsar Panjaitan, et le gouverneur de la Banque mondiale, Perry Warjio. Le ministre des Finances, Madame Sri Mulyani, a également promis de discuter les questions environnementales lors de la réunion annuelle qui ne discute pas seulement des questions économiques. 60% des espèces des récifs coralliens existent en Indonésie, parmi la totalité des récifs coralliens du monde ou le plus grand du monde. Toutes les parties doivent commencer à penser à une forme de protection. Le ministre a promis de porter cette question à la réunion annuelle du FMI et la Banque mondiale 2018 à Bali. Madame Sri Mulyani a déclaré que les récifs coralliens indonésiens n'appartiennent pas seulement à l'Indonésie, mais appartiennent aussi au monde qui doit être protégé ensemble pour les générations futures. Le ministre de Coordination des Affaires Maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que cette activité montre l'engagement du gouvernement indonésien à préserver l'environnement, en particulier en mer. La région de Nusa Dua Bali fait partie du triangle de corail. Les récifs coralliens ne sont pas seulement un lieu pour le biote marin, mais aussi une source importante de protéines. À la même occasion, Madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a déclaré que c'était la deuxième occasion pour elle de participer à l'activité de protection de l'environnement avec le ministre Luhut. Auparavant, Madame Lagarde participait au nettoyage de la rivière des déchets, en particulier du plastique. Il y a des formes de préoccupation du FMI pour l'environnement, entre autres, mener des recherches et publier des rapports sur les parties de la planète les meilleures et les plus touchées par le changement climatique. En outre, le Fonds monétaire international prépare également un système de financement de la protection pour la durabilité de l'environnement. Selon Madame Lagarde, la plantation de ces récifs coralliens montre l'inquiétude du FMI pour l'environnement et le changement climatique. Chers amis, c'était Modernésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre mission avec le magazine culturel et cette fois nous allons vous présenter la province de Yogyakarta pour profiter de la beauté de Blue Lagoon ou la Lagune Bleue. Blue Lagoon existe pas seulement en island en Europe mais également dans la région spéciale de Yogyakarta sur la rue Kaliurang, kilomètre 13, dans le village Dalem Widodamartani, Ngemplak, Sleman. Cette lagune bleue était autrefois une source utilisée pour répondre aux besoins de la population du village de Ngemplak et de ses environs. Mais au fil du temps, le printemps est devenu une attraction touristique très demandée par les touristes nationaux et étrangers. En fait, le nom officiel de Blue Lagoon est le bain public Tirta Budi, mais beaucoup de touristes l'appellent Blue Lagoon. C'est parce que l'eau du bain public Tirta Budi est bleue et claire. C'est très belle. Bien que ce bain soit petit, il est capable d'attirer l'attention de nombreuses personnes. Du centre de Yogyakarta à Blue Lagoon, c'est seulement 15 km. Et peut atteindre environ 40 minutes.
Avant d'arriver à Blue Lagoon, il faut emprunter le chemin qui n'est pas trop éloigné. Vous ne vous sentirez pas fatigué car vous serez traité dans un paysage naturel magnifique et exotique. Le banc de Tirthaboddhi est ouvert de 7h au coucher du soleil, ainsi que vous pouvez être plus satisfait en explorant l'excitation. Une fois arrivé à Blue Lagoon, vous verrez trois sources naturelles. Sur le côté gauche se trouve Sendang ou le lac Wadon, tandis que sur la droite se trouve Sendang Lanang. Ici, il y a une douche naturelle et peut être utilisée comme un lieu de massage naturel. La lagune bleue, qui est la piscine principale, est située au milieu. Cette piscine est un lieu de prédilection pour les touristes qui jouent à l'eau tout en essayant des sources naturelles fraîches, parce que dans ce bain Blue Lagoon, vous pourrez vous détendre et nager. La profondeur de la piscine est d'environ 1 jusqu'à 3 mètres. Le meilleur moment pour visiter Blue Lagoon à Yogyakarta est pendant la saison sèche, parce que ensoleillé. Lorsque le temps est clair, la clarté de l'eau aura l'air si parfaite. Mais si vous venez en vacances, vous devriez venir le matin, parce que à cette époque, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Vous pourrez être satisfait de nager ou bien de baigner. Après vous être content de jouer à l'eau, de tremper et de nager, vous pouvez vous arrêter au kiosque autour de la piscine en dégustant des plats ou bien des collations. Une atmosphère typique rurale vous fera certainement sentir chez vous pendant longtemps. Parce que vous vous détendez, vous pouvez également prendre des photos avec le fond de la belle campagne. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, en formant sur Perfect l'application pour mesurer la maturité des fruits. La majorité des Indonésiens travaillent comme agriculteurs. Ils veulent des récoltes abondantes et de bonne qualité, c'est-à-dire que les rendements sont bien cuits. Pour obtenir une récolte mûre, vous devez connaître le bon moment pour la récolte. Pour aider les agriculteurs à déterminer le bon moment pour la récolte, Rati Rahmatika, étudiante de l'Université 11 Maret, Solo, a développé Perfect, une application Android permettant de mesurer le niveau de maturité des fruits. L'application appelée détecteur de maturité de fraîcheur des aliments périssables ou Perfect a été délibérément conçu pour aider les agriculteurs à identifier le niveau de maturité des fruits. Le but est de terminer le bon moment pour la récolte. Jusqu'à présent, beaucoup de gens se sont appuyés sur des estimations pour déterminer la période de récolte. Par exemple, Les bananes doivent être récoltées lorsque le niveau de maturité atteint 70%, de sorte qu'elles ne sont pas trop mûres ni même pourries lorsqu'elles sont entre les mains de consommateurs. Le calcul de niveau de maturité doit être précis, surtout si le fruit sera exporté. Le niveau de maturité peut être identifié par la couleur de la peau du fruit. Les couleurs sont formées par des compositions des couleurs rouge, verte et bleue. L'application est utilisée pour mesurer la composition chromatique des fruits avec une base de données intégrée à l'application. Lors de son utilisation, les agriculteurs prennent la photo des fruits à récolter à l'aide de la fonction de caméra sur Android, puis à les traiter à l'aide de l'application Perfect. L'application calculera la composition de couleur RVB de la photo. À partir du processus, le niveau de maturité sera vu. Cette application doit encore être développée. Actuellement, il ne peut être utilisé que pour mesurer le niveau de maturité de bananes en bonne. Perfect n'est pas seulement destiné aux agriculteurs. Cette application est également utile pour les consommateurs qui achètent des ingrédients alimentaires. Avec cette application, les consommateurs peuvent éviter d'acheter des ingrédients alimentaires pourris. Les consommateurs doivent simplement prendre des photos des produits alimentaires qu'ils souhaitent d'acheter à l'aide d'Android, puis les traiter via l'application Perfect. La nourriture avariée a un niveau d'acidité élevé. La nourriture avariée a un niveau d'acidité élevé. Le niveau d'acidité affectera la couleur. Cette application calculera le niveau d'acidité à travers les photos obtenues. L'application Perfect est devenue le troisième lauréat du concours national d'écriture scientifique organisé par l'Agence indonésienne de financement des exportations ou Indonesia Eximbank. C'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis de la voix d'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine musical. On vous introduit la belle chanteuse indonésienne, s'appelle Betakia Sonata, qui était célèbre aux années 1990. Voici donc sa première chanson intitulée « Tout peut dire ». Bonne écoute. Semua itu cukup cinta daku. Serutak setelah sanction de Betaria Sonata intitulé Tout peut dire. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Bon, chers auditeurs et chers auditeurs, Betaria Sonata est née à Bandung, Java West, le 14 décembre 1962. Outre qu'une chanteuse, elle était une actrice de films indonésiens. Betaria est célébrée aux années 1990 avec sa chanson hits intitulée Le cœur brisé. Grâce à cette chanson, elle a gagné un prix de la cassette d'or de HDX pour l'album Du cœur brisé. Bon, chers et chers auditeurs, voici une chanson de Betaria Sonata intitulée Tu es créé pour moi. Bonne écoute.
Bukankah esok
Chers auditeurs et chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie diffusée à Jakarta. C'était la chanson intitulée « Tu es créé pour moi » de Betaria Sonata. Betaria a sorti quelques albums, entre autres « Si » en 1995, « Ma mémoire en karaoké » en 1997, « Best of Betaria Sonata Karaoke » en 1999, « Melayu Deli » de Betaria Sonata 1999, et en 2003, Betaria a publié un album de platinum 22 « Best of Betaria Sonata » deuxième volume. Depuis qu'elle était une chanteuse, Betaria a sorti 30 albums en solo. Outre le prix de cassette d'or, Beta a aussi reçu 7 Golden Records. Ces albums étaient produits par Musica Studio. Bon, servitrice et serviteur, avant de terminer notre programme, on écoute la dernière chanson de Betaria Sonata intitulée Terlambat Sudah dan Hati yang Luka. Bonne écoute et au revoir.
Sudah kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan apapun padaku, kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku setelah kau siksa
depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Bila saja engkau masih di sini, pastilah diriku tak sepi begini. Hari-hari pun semakin terasa membawa kejenuhan di dalam hidupku. Hanyalah semata engkau satu kasihku.
D'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.